Mercredi dernier, le collectif Stop TAFTA d'Arras organisait une conférence de presse. C'est un collectif qui regroupe des assos, des syndicats et des partis politiques de gauche. On peut en citer quelques-uns. Artisans du Monde Arras, Attaque Artois, Au Secours 62, Europe Écologie Les Verts, la FSU, le Mouvement pour la Paix, Nord Nature, le Parti de Gauche, le PCF ou encore l'Union Syndicale Solidaire. Tous réclament l'abandon des négociations en cours actuellement sur le grand marché transatlantique entre l'Union européenne, les États-Unis et le Canada. Dans ce sujet, vous allez entendre différents membres de ce collectif Stop TAFTA Arras. Ils évoquent à notre micro les raisons de leurs nombreuses inquiétudes, l'organisation de leur mouvement. Ils présenteront aussi le résultat d'un travail qu'ils ont effectué, puisqu'ils ont interpellé les candidats aux européennes afin de connaître leur point de vue sur cette question. À noter, et c'est bien dommage, que Radio PFM était le seul média présent lors de cette conférence de presse.
Hervé Dieval, Attaque Artois.
De quoi on parle quand on parle du grand marché transatlantique, TAFTA ?
Voilà, il est connu sous effectivement plusieurs noms. TAFTA, qui est le nom anglais, mais nous on préfère l'appeler grand marché transatlantique. Puisqu'il s'agit en fait de négociations entre l'Union européenne et les États-Unis, négociations qui sont conduites par la Commission européenne au nom de l'Europe, donc, et les États-Unis, en vue de libéraliser le marché entre les deux grandes puissances économiques.
Quelles inquiétudes vous avez à propos de ce traité ?
Je suis Audegon Philippe, du Parti de Gauche, ici à Arras. Bien, les inquiétudes, eh ben, elles sont multiples. Hein. Il y a la malbouffe, hein. On sait ce dont sont capables là aussi les Américains. Le code du travail qu'ils remettront en question, et je crois que à commencer par le SMIC, bien entendu. Et puis ils veulent également, mais ça c'est le libéralisme qui le veut, hein, l'arrêt progressif des services publics, alors que des écoles, des hôpitaux pour les entretiens des routes, etc., etc., on aura toujours besoin de marché public.
Je vais compléter la réponse. En fait, c'est une négociation sur trois points. D'abord, les droits de douane. Ensuite, ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, que j'expliquerai après. Et enfin, l'institution d'un espèce de tribunal arbitral, c'est-à-dire d'une justice privée qui réglera les conflits entre les États et les entreprises ou les multinationales. Les tarifs douaniers, il s'agit d'harmoniser les taxes. Ça posera problème dans un certain nombre de domaines, notamment par exemple dans l'agriculture, puisque les modes de production ne sont pas les mêmes, les impératifs sanitaires par exemple ne sont pas du tout les mêmes entre les États-Unis et l'Europe, et les tarifs douaniers permettaient un peu de réguler la concurrence. Si on nivelle tout, naturellement, on va niveler par le bas tout ce qui est normes de production. Et nous, on a un peu tendance à dire qu'on verra arriver du bœuf aux hormones dans les assiettes européennes. Le deuxième point, ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, c'est en fait tout ce qui est protection sociale, protection environnementale, protection sanitaire. Donc toutes ces protections qu'on s'est données, même si elles sont imparfaites, elles existent en Europe. Toutes ces protections pourront être jugées à un moment donné comme des entraves au commerce. Et donc comme le but des négociations, c'est de supprimer toutes ces entraves au commerce, on verra effectivement aussi un certain nombre de choses se produire. Donc dans les exemples qu'on donne, on redonne le poulet, le bœuf aux hormones, on donne les exemples de carcasses qui sont passées à l'eau de Javel, on donne le gaz de houille, on donne les OGM. Tout ça risque effectivement à un moment donné de rentrer dans le contenu des négociations et l'Europe pourra plus forcément se protéger. Le troisième point, c'est le tribunal arbitral. Donc là, c'est en fait instituer une justice privée qui sera amenée à juger les différends entre les entreprises et les États. Et ça ne sera pas du ressort de la justice habituelle, de la justice des États. Ça sera confié à des grands cabinets d'avocats qui rendront des décisions un petit peu comme celles qu'on a pu connaître récemment dans l'affaire Tapi et qui seront largement payés pour étudier ces dossiers.
Yves Adam pour le Parti communiste Front Gauche. Je crois que c'est ce projet, c'est une étape, un échelon supplémentaire dans la libéralisation à tout prix de l'économie, mais dans tous les aspects de la vie, de la vie politique et de la vie politique et sociale. Et donc, on s'en va. Alors, c'est particulièrement exaspérant de voir effectivement que ce sont des tribunaux privés qui vont priver en fait les États de prendre la responsabilité. Déjà qu'elles ont, les États européens ont déjà beaucoup de mal à le faire ces derniers temps. Et cette fois, on donne un outil, une arme supplémentaire au capital, aux banques, aux entreprises pour pouvoir faire un peu ce qu'elles veulent, mais Hervé a raison de dire, pas seulement au niveau économique, mais aussi au niveau social. On s'en va vers une dégradation des services publics, parce qu'on pourra, n'importe quelle entreprise pourra attaquer un État si l'État souhaite intervenir en principe pour le bien-être de sa population, mais si ça va à l'encontre de l'intérêt de ses entreprises, le tribunal aura toutes les possibilités de trancher.
Alors Mireille, je pense qu'il faut penser que tout ça, c'est lié à l'évolution de l'OMC. L'OMC n'a pas rempli les objectifs qu'on lui avait assignés. Il y a aussi à l'OMC un organisme de règlement, dit de règlement des différends, qui est jugé parti, hein, un peu comme les tribunaux arbitraux. Et on a des exemples de ce qui se passe lorsqu'il y a ce type d'accord entre notamment les États-Unis et d'autres États. Il y a des États qui ont été condamnés à des amendes faramineuses. L'un, par exemple, par la compagnie Philip Morris, donc compagnie de producteurs de tabac, hein, qui a fait condamner un État, je crois que c'est l'Uruguay, pour avoir mis trop de mise en garde sur les paquets de cigarettes. Vous avez aussi l'exemple de la Colombie qui, pour échapper à ce type de condamnation, a envoyé l'armée détruire les semences, des tonnes de semences chez les paysans, parce que sinon ils étaient attaqués par Monsanto ou par... enfin bref. Donc on voit d'ores et déjà que ce genre de choses s'applique ailleurs. On a tous les éléments pour savoir que c'est pas bon, que de toute façon c'est mauvais. Donc il faut vraiment se battre contre ça.
Xavier Delebarre pour Europe Écologie Les Verts. Alors moi je voudrais bien insister sur deux conséquences dramatiques qui pourraient survenir avec la possible approbation de ce futur traité. C'est tout d'abord le fait que à travers ce qui est présenté en matière d'abaissement des normes, on permet la remise en cause de tout ce qui est protection environnementale, alimentaire, sociale, etc. Et c'est un moyen de remettre en cause les normes, toutes ces normes qui régissent notre vie aujourd'hui. C'est une remise en cause fondamentale de ces normes et c'est un mécanisme qui ne met pas de limite à ces possibilités-là. C'est le premier point. Et le deuxième point qui est indirect mais qui est très important, c'est que on sort du contrôle démocratique. On passe dans des processus qui sont des processus d'exclusion des citoyens et de la représentation démocratique de ces citoyens pour la définition de ces règles. On est dans un système qui privatise l'ensemble des normes. Et c'est extrêmement inquiétant. C'est pour ça qu'il faut s'opposer à ce traité.
Sylvie Leclerc d'Europe Écologie Les Verts. Pour compléter ce qui vient d'être dit en matière de normes, je crois qu'au-delà des menaces ponctuelles, c'est l'ensemble du modèle européen qui est menacé, puisqu'actuellement, ce qui fait la particularité de l'Union européenne, c'est qu'elle s'est construite sur des valeurs qui sont des valeurs de démocratie, qui sont des valeurs de protection des citoyens. Et elle est actuellement, à échelle mondiale, l'espace, le plus grand espace qui produit des normes, soit des normes environnementales, des normes sociales et des normes sanitaires. Et c'est bien pour ça, en fait, qu'il y a ce marché qui permettrait finalement niveler l'ensemble des espaces dans le cadre de la mondialisation.
Juste pour rajouter un petit mot, en fait, cette Europe avait été faite pour ne pas dépendre des Américains. Et là, ça va être tout le contraire.
Une chose aussi, c'est qu'en fait, ces accords sont secrets. C'est-à-dire qu'actuellement, le mandat qui a été donné à la Commission par les États n'a pas été divulgué officiellement. Il est connu par des fuites. On n'a pas accès au contenu des négociations. Aucun des élus n'y a accès. Les députés européens ne peuvent peuvent y avoir exceptionnellement accès, mais à partir du moment où ils ne peuvent pas, où ils promettent de ne pas en parler, les députés et les sénateurs européens, français, ne sont pas tenus au courant de ces négociations. Par contre, on sait très bien que ces accords ont été voulus par les multinationales. C'est-à-dire que c'est eux qui ont, c'est elles qui ont poussé les États à entamer ces discussions. Donc, forcément, on peut avoir de grandes craintes par rapport à ça.
On est toujours en compagnie du collectif Stop TAFTA Arras, rencontré mercredi dernier.
En réaction à ces négociations, il y a une mobilisation qui se déroule, mobilisation au travers aussi de collectifs locaux. Il y a un collectif local arageois Stop TAFTA. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette mobilisation? Comment ça se passe au niveau international, national et puis aussi local?
D'abord, je voudrais dire que cette mobilisation, elle a tardé à venir, parce qu'on est quand même à quelques jours des élections européennes. Mais si elle a tardé à arriver, cette mobilisation, c'est aussi de la faute du secret dont on entoure ces négociations. Il faut quand même rappeler que lorsque le président de la République est allé rendre visite à Obama il y a quelques semaines ou quelques mois, selon ce qu'on a rapporté, alors je ne sais plus quel grand journal américain, mais Hollande aurait dit bon, faut aller vite parce que on suppose que ça va bouger. Alors je ne sais plus quels sont les mots qui ont été employés exactement, mais si on ne se dépêche pas à signer cet accord, il y aura une trop vive opposition. Donc, effectivement, on a beaucoup de mal. Bon, maintenant, ça commence à être connu, ça commence à bouger. Il y a des opposants élus parlementaires qui commencent à se manifester. Mais c'est vrai que c'est un peu tard, me semble-t-il, pour que la population soit informée, en tout cas avant les élections européennes.
Alors la mobilisation, en fait, elle est partie d'un collectif national qui regroupe une quarantaine d'organisations, alors soit des partis politiques, soit des syndicats, soit des associations, qui se sont donc créés au début de l'automne, à peu près. Enfin, ce comité s'est créé au début de l'automne. Et tout doucement, c'est en train de s'étendre dans toute la France avec la création de collectifs locaux. Donc Arras est un des collectifs locaux. Donc en fait, nous, on a commencé à travailler ensemble, je crois que c'était à peu près au mois de février-mars, ou suite à une conférence CATA qu'avait organisée avec quelqu'un d'ATA qui suit les négociations commerciales internationales, donc était venu fin janvier faire une conférence, et c'est suite à cette conférence qu'on avait décidé d'essayer de lancer la création d'un collectif et de travailler ensemble. Donc ce collectif est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être à peu près à une dizaine d'organisations. Donc, pareil, il y a des associations et partis politiques et des syndicats. Et donc, l'un des premiers travaux qu'on a voulu faire dans le cadre de ce collectif, c'était de porter une information grand public. Je crois qu'il était important de commencer à mettre ce problème-là dans le débat public de façon à faire en sorte que les gens aient un minimum d'informations. Donc en fait, ça s'est traduit par deux formes d'action. On a réorganisé une deuxième conférence à Méricourt. Méricourt parce que la ville était assez sensibilisée à ces problèmes de commerce internationaux, puisque dans d'autres temps, il s'était déclaré contre des négociations en cours. Et puis, grosse distribution de tracts hein, sur le Salon du Livre et sur le marché. Voilà un petit peu où on en est des actions qu'on a entreprises. Il n'y a pas que les organisations qui sont en train de se bouger. Il y a un certain nombre de régions, un certain nombre de départements, un certain nombre de villes qui se sont déclarées contre les négociations. La région Île-de-France a été la première à se positionner contre ces négociations. Elle a été ensuite suivie par région PACA, il y a la Picardie, il y a le Limousin, et il y a d'autres régions qui émettent de grandes réserves par rapport à ces négociations, la Basse-Normandie et la Bretagne par exemple.
Cette région, c'est les conseils régionaux, c'est ça ?
Conseils régionaux, c'est ça. Et je sais qu'au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais, il y a une initiative qui est prise par un certain nombre de conseillers régionaux. Et je pense qu'ils vont déposer une motion à la région très prochainement. Enfin, je pense que semaine prochaine, ça devrait aboutir.
Oui, justement, pour continuer sur la mobilisation, là, on parle de la mobilisation en France. Est-ce que dans les autres pays de l'Union européenne, est-ce que ça bouge aussi ?
Ce qu'on peut dire, il suffit d'aller en Belgique et les Verts belges sont également en action aujourd'hui contre le TAFTA et leurs députés au Parlement européen agissent très fermement sur ce sujet.
Il y a des collectifs qui se créent un peu partout en Europe. C'est assez inégal parce qu'il y a effectivement des pays qui ont une position plus atlantiste, plus pro-américaine, donc c'est vrai que c'est assez inégal, mais on peut dire qu'en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, vient d'y avoir une ville qui s'est déclarée contre les négociations, c'est en train de bouger pas mal. C'est également en train de bouger aux États-Unis, à savoir qu'il y a un collectif de un peu plus de 500 organismes qui se sont déclarés contre les négociations, puisque les inquiétudes sont les mêmes pour eux par rapport à sur d'autres secteurs. Sachant qu'ils ont, eux, le recul par rapport à l'ALENA, hein, qui est l'accord commercial entre le Canada et le Mexique, et où notamment un syndicat estime que cet accord a détruit, je crois, plus d'un million d'emplois en une quinzaine d'années.
Je crois que toutes et toutes autour de cette table, on essaye aussi d'en parler un petit peu autour de nous régulièrement tous les jours, quoi, pour avertir des dangers notamment, hein, ce que ça représente et puis ce que c'est, quoi. Hein, voilà la catastrophe pour les peuples à venir. Hein.
Suite et fin de notre entretien avec des membres du collectif Stop TAFTA Arras, collectif composé d'associations, syndicats et partis politiques arrageois.
Autre démarche du collectif arrageois, c'est interpeller les candidats aux européennes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Ça a été le premier axe de travail du collectif. En fait, on s'est créé un peu là-dessus. C'était de dire, dans le cadre des élections européennes, il faut interroger les candidats. Donc on leur a envoyé tout un argumentaire reprenant un peu les appréhensions qu'on avait par rapport à ces négociations qui ont été développées en 4 ou 5 points. Et à la fin de ce courrier, on leur posait 3 questions relativement simples. La première concerne un accord qui a déjà été validé par les États entre l'Europe et le Canada et qui sera donc soumis à ratification du Parlement dans quelques temps. Donc on leur demandait quelle position ils prendraient s'ils étaient élus par rapport à ces accords. La seconde question, c'était de leur demander quelle était leur position par rapport aux négociations actuelles dans le cadre du grand marché transatlantique. Et enfin, comment ils justifiaient leur position. Donc sur les 22 listes, 19 ont été contactées. Il y en a 3 dont on n'a pas réussi à avoir les contacts, donc on n'a pas contacté. Alors les 3, c'est communiste, qui n'a rien à voir avec avec le Front de Gauche, Force Vie et Radicalement Citoyen. Toutes les autres listes ont été contactées.
Et 9 ont répondu.
Sur les 9... Il y a un qui ne se prononce pas, c'est candidat les citoyens du vote blanc. Donc je pense qu'ils sont, eux, dans leur logique, c'est-à-dire que le seul truc qui les intéresse, c'est de faire reconnaître le vote blanc. Donc ils nous ont dit que si on voulait vraiment défendre nos idées, il fallait s'adresser aux partis qui étaient susceptibles de les défendre. Je pense que je caricature pas ce qui a été dit. Je pense que c'est ça. Il y a une autre réponse qui a nécessité une demande de précision. En l'occurrence, c'est celle de l'UDI Modem. Donc c'est Dominique Riquet, la tête de liste, qui nous a répondu qu'il avait voté contre le mandat de négociation dans la précédente mandature et que, par conséquent, sa position future était allée de soi. Donc là, je vais juste renvoyer une question complémentaire en disant que ça me semblait un peu contradictoire avec la position officielle de son parti. Donc je lui demandais simplement si c'était une position personnelle ou si c'était une position officielle. Je n'ai pas eu de réponse à ce deuxième questionnement. Et toutes les autres listes ont répondu qu'elles étaient opposées, c'est-à-dire les sept autres, c'est-à-dire Europe de la décroissance, le Parti pirate, Europe écologie les Verts, l'Europe démocratie espéranto, Nouvelle Donne, NPA et le Front de gauche ont répondu qu'ils étaient carrément opposés à ces négociations.
Ça veut dire qu'il y a 10 listes qui n'ont pas répondu alors, c'est ça ?
Voilà.
Dont quand même des ténors, quoi.
Dont le PS, dont l'UMP, dont le Front National. Effectivement, enfin, les 3 ou 4 grandes listes, enfin, celles dont on dit qu'elles vont gagner la bataille, eh ben non, elles n'ont pas répondu. Alors, je veux dire, il y a un autre comité sur l'île, et je les ai interrogés, savoir, puisqu'ils ont fait à peu près la même démarche, sans envoyer le même courrier, mais ils ont interrogé aussi un certain nombre de listes, et ils n'ont pas eu beaucoup plus de réponses que nous. Ils en ont eu 3, en fait.
Après les élections européennes, ces négociations se poursuivront. Qu'en est-il de la mobilisation des collectifs et du collectif Arajois Stop TAFTA ?
Le combat va continuer, il n'y a pas de raison. Mais c'est sûr que il faut aller voter dimanche et bien faire attention pour qui on vote, quoi. Mais après, nous, on va continuer. On avait parlé aussi, pourquoi pas, de possibilités de réunions publiques. C'est vrai que ce sont des choses qui manquent, hein, plus que jamais. Et je crois que, moi, personnellement, je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Il faut le faire, quoi.
L'idée, c'est aussi de contacter les collectivités territoriales pour les amener à se positionner. Même si ça peut paraître un positionnement de l'ordre du symbolique, l'enjeu, c'est aussi de communiquer sur le sujet du TAFTA, de faire comprendre au maximum et au plus grand nombre de citoyens les dangers que ça représente. Donc ça, ça fait partie des projets qu'on a, de s'adresser aux collectivités territoriales et aux municipalités, aux départements, à la région, pour les amener à se positionner clairement sur le sujet. Et puis on a aussi envisagé une pétition, donc utiliser le droit d'initiative citoyenne européenne, donc ça serait à échelle européenne, pour déposer une pétition auprès de la Commission qui serait signée. Donc il faut au moins 1 million de citoyens européens sur... issu de plus du quart des membres de l'Union européenne. Donc ça, c'est aussi le projet qu'ATTAC avait lancé et qu'on va relever et essayer de tenir.
Je crois qu'il faut dire qu'au départ, notre souci, c'était surtout d'informer la population, pour les raisons qu'on a déjà exposées. Hein. Mais comme on est dans une situation d'élection, et élection à un niveau où justement les décisions vont se prendre, bon, il était aussi logique qu'on s'adresse... qu'on s'adresse également aux candidats qui, pour certains, seront de futurs élus. Et je voyais dans un sondage, j'ai vu ça dans l'Humain d'aujourd'hui, que parmi les gens qui étaient au courant, et bon, je ne sais pas quelle est la proportion, mais autour de nous, on peut se rendre compte qu'il y a tout compte fait peu de gens qui sont vraiment au courant de la situation et surtout des conséquences que ça peut avoir. En tout cas, parmi ceux qui étaient au courant, je dirais qu'il n'y a que 55% des gens qui sont contre le TAFTA. Parce que justement, les implications ne sont pas connues. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, ça ne s'arrêtera pas, notre action ne s'arrêtera pas à la dimanche soir à la suite des élections européennes, parce que même si on peut dire par ailleurs que le Parlement européen n'aura pas son mot à dire, s'il pouvait le dire, et s'il pouvait le dire dans le bon sens, ça ne pourrait qu'apporter de l'eau à notre moulin, en fait. On continue de penser que c'est la pression populaire qui pourra faire changer les choses et ne faire en sorte que ce traité n'aboutisse pas. Et bon, on a de petits moyens, mais on met tous ces moyens en œuvre pour pouvoir faire cette information.
De toute façon, on est bien obligé d'essayer d'envisager toutes les possibilités qui s'offrent à nous, puisque les grands médias n'en parlent pas. Alors, ils nous ignorent.
Les grands médias, d'une façon générale, squeezent complètement le sujet, ou quand ils le présentent, c'est avec des faux, ces faux débats qu'ils savent si bien organiser, où finalement, ceux qui sont censés s'empoigner, en réalité, ils sont d'accord entre eux, quoi. Alors bon, voilà. C'est comme ça qu'on a de l'information pour la plupart des gens, hein. Faut pas se leurrer.
Voilà pour ces témoignages récoltés mercredi dernier à la Maison des Sociétés. On est en compagnie de plusieurs membres du collectif Stop Tafta Arras. Mireille, qui elle ne fait pas spécialement partie d'une organisation. Philippe Audegon du Parti de Gauche à Arras. Yves Adam pour le Parti Communiste Français, le Front de Gauche. Sylvie Leclerc et Xavier Delebarre pour Europe Écologie Les Verts. Et Hervé Dieval pour Attaque Artois. Je vous rappelle que, hélas, Radio PFM était le seul média venu couvrir cette conférence de presse. Et je vous signale aussi que vous pourrez écouter, réécouter librement cette interview sur notre site www.radiopfm.com. Et puis si vous voulez en savoir plus ou vous impliquer dans ce collectif Stop Tafta Arras, sachez qu'une réunion est organisée ce mardi 27 mai à 18h. Ça se passe à la Maison des Sociétés au 16 rue Aristide Briand à Arras.